Vous savez, j'ai pratiquement pas envie de faire la prédication tellement des choses grandes ont été dites. Est-ce que ce matin, on a envie d'être un âne? Si je faisais lever la main, tout le monde dirait « je veux être un âne ». Il y a beaucoup de choses qui m'attristent et c'est d'entendre par exemple, parfois des églises qui sont divisées, des églises qui, où ben, il y a des choses qui sont pas bonnes. Et notamment, dernièrement, on a appris, en fin de compte, qu'il y a une église, il y avait une division dans l'église, et le pasteur a été obligé de partir. Vous imaginez, il a été obligé de partir parce que bah, il y avait des divisions concernant un ancien pasteur, un nouveau pasteur, et je trouve ça vraiment d'une tristesse incroyable. Et je suis persuadé parce que les gens n'ont pas ne sont pas restés à leur place, ne sont pas restés des ânes. Et c'est surtout pour moi parce que bah parfois dans les églises, l'enseignement qui est fait n'est pas un enseignement simple, où la doctrine est simple, où la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement qui est fait, les messages, ne reposent pas sur la simplicité de la parole, sur Jésus-Christ. Et on se retrouve à avoir des messages, des choses qui sont, qui vont, on parle des choses du monde, on parle de l'informatique, on parle ceci, on parle cela, puis tout petit à petit, on est en train de dévier de la parole de Dieu. Alors vous allez me dire, de temps en temps, on a un verset qui parle pour bien mettre en parallèle ce qu'on est en train d'expliquer. Et j'aimerais vous amener dans Tite. Alors Tite, c'est un brave bonhomme, en fin de compte, c'est quelqu'un qui, je vais vous dire, on va lire en quelques versets, mais c'est pour vous centrer un peu le Tite, vous donner un peu le personnage. Tite, c'est quelqu'un qui a répondu, qui a été sensible à la parole donnée par Paul. Il était grec et c'était quelqu'un, en fin de compte, d'un très très bon organisateur. Il savait bien gérer, il savait bien faire les choses. Et Paul, en fin de compte, l'a dit, ben voilà, je vais te prendre, je vais t'envoyer en Crète. Parce qu'il y avait encore des choses à Crète. Et ce qui est incroyable, c'est que Paul ne l'a pas circoncis. C'est-à-dire qu'en ces temps, il a reçu des pressions pour que Tite soit circoncis. Et Paul ne l'a pas circoncis parce qu'en fin de compte, Paul disait, mais je vais vous montrer ce que je prêche. Je ne vous prêche pas la loi qui était en place, mais je vous prêche Jésus-Christ. Il voulait dire que Jésus-Christ était venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. C'est-à-dire que la loi ne servait en fin de compte plus à rien. C'était Jésus-Christ que Paul prêchait. Donc Tite a été envoyé en Crète parce qu'il y avait un bon ordre à mettre dans cette assemblée. Et donc Paul a exhorté Tite à faire plusieurs choses, à donner des messages, notamment au chapitre 1 par exemple, qui concerne la vie de l'assemblée, au chapitre 2, la vie de la famille dans la foi, et au chapitre 3, la vie sociale. Et ce sont pour moi trois aspects très importants qui doivent être enseignés. Il ne faut jamais oublier que dans une église, on n'a pas simplement une responsabilité collective, mais on a également une responsabilité individuelle. La gestion d'une église n'est pas seulement dévolue aux pasteurs ou aux anciens, elle est dévolue à chacun d'entre nous. Certes, dans la parole, on va trouver que si on a des problèmes, on va prier, on va voir les anciens et on prie avec eux. Mais on a notre responsabilité, et vous allez voir de quoi je vais vous parler, au travers de notre comportement. Et donc, je disais, ces trois aspects sont des aspects importants. Parce qu'on peut montrer parfaitement dans une église une image, une belle image. Moi, aujourd'hui, peut-être, je vous montre une très belle image. Et quand je rentre chez moi, je suis le pire des pires. Et c'est ce que, en fin de compte, Paul va demander au travers de tout cet enseignement de démontrer aux Crétois. Donc, il insiste sur la bonne pratique morale, sur les bonnes œuvres. Et bien sûr, quand on parle de bonnes œuvres, ça ne veut pas dire faire de l'évangélisation, enfin, pas faire... Non, non, non. C'est avoir un comportement qui incite les gens à comprendre et donne envie aux gens à épouser les mêmes choses que nous, on connaît. Donc, il rattache en fin de compte, vous allez voir, sa doctrine à des choses tout à fait simples. Il n'y a pas de choses extravagantes, et c'est ce qu'on va voir ce matin, et c'est pour ça que j'ai envie de vraiment qu'on s'imprègne de ça. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, ce n'est pas une doctrine. Vous allez voir, ce sont des choses qu'on a déjà entendues, et c'est incroyable que Paul, en fin de compte, donne ces choses aux Crétois. La première chose, bien sûr, qu'il donne à faire à Tite, c'est de nommer des anciens. Alors, si vous voulez être ancien dans une assemblée un jour, ben, vous lisez Tite. Vous lisez Tite et vous allez voir qu'il y avait pas mal de choses à faire. Vous lisez également, bien sûr, Timothée. Et vous verrez. Donc, j'ai oublié mes lunettes, donc j'ai emprunté ceux de mon frère. Donc, en fin de compte, le but de l'épître est la foi enseignée qui doit être en évidence avec la foi vécue. C'est-à-dire d'être ce que je dis et de dire ce que je fais. L'un et l'autre doivent être liés. En aucun cas, je dois dire des choses et ne pas les vivre. C'est ce que Paul va demander à Tite. Donc, il lui en demande simplement de lui enseigner la vérité et la piété. Et c'est établi à plusieurs reprises. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là vous allez voir, je vais vous donner un exemple de ce qu'on pourrait dire dans une église. Si la vérité n'est pas enseignée et maintenue, la piété fera certainement défaut. Si la piété manque, la vérité ne tardera pas à manquer, à être mise de côté. Donc si je vous laisse ça comme ça, vous allez me dire, oh, c'est difficile à comprendre, c'est tout simple en fin de compte. Quand il y a de la négligence dans la doctrine, quand on part à faire des messages, des discussions à l'eau de rose, vous savez, on laisse tomber les chapitres, les Romains 8, les Jean 17, qui nous embêtent, qui nous montrent où, tous les épîtres de Jean, qui nous mettent le doigt là où ça fait mal, et qu'on commence à parler des choses du monde, notre place dans le monde, et ceci, cela, en fin de compte, la vérité n'est plus enseignée. Et il faut vous dire qu'à cette époque, c'était le début des églises. L'église crétoise était toute jeune. Et Tite avait été exhorté par Paul de mettre en place vraiment la base de l'église, le fondement de l'église. Le fondement de l'église devait être établi sur Jésus-Christ. Donc, il lui demandait en fin de compte que la vérité soit vraiment enseignée. Donc on va aller en chapitre 2, Tite chapitre 2, versets 11 à 15. Vous allez voir à quel point c'est difficile. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Donc voyez à quel point c'est compliqué. Si on s'arrête sur ce que je viens de dire, on l'a entendu, réentendu, et vous allez me dire, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vais entendre aujourd'hui. C'est parce qu'on l'avait désigné pour faire une prédication, donc il va faire sa prédication. Mais c'est parce qu'en fin de compte, pour moi, ces choses ne sont plus enseignées dans les églises. Et on a affaire dans les églises à des comportements qui n'ont rien à voir avec une vie sainte, une vie éclairée par l'Esprit de Dieu. C'est plus l'Esprit de Dieu qui me fait marcher, c'est moi qui ai décidé de faire marcher l'Esprit de Dieu. Et c'est démontré. On va voir maintenant comment c'est démontré. Bien sûr, ici, on parle de la grâce de Dieu. Et on dit qu'elle est manifestée. Alors, elle a été manifestée, en fin de compte, elle est apparue. Elle a été accompagnée de la bonté et de l'amour. Et ça, on voit ça en chapitre 3, verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc on est sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ dans nos cœurs. On n'est pas sauvé, contrairement à d'autres doctrines, on n'est pas sauvé par les œuvres qu'on fait. Et beaucoup de gens, malheureusement, dans les églises, ont reçu le baptême et se sont assis, là, sur une chaise. Et ils ont oublié, comme a dit Brigitte tout à l'heure, de faire marcher leur foi. Parce qu'on oublie une chose, c'est que Dieu nous donne la foi. Et c'est à nous de nous sanctifier. On se sanctifie comment ? En lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, une caractéristique du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, c'est introduire l'enseignement de la grâce. On l'a vu tout à l'heure, l'enseignement de la grâce, elle nous enseigne. C'est-à-dire ce que nous vivons. Nous savons que nous sommes libres du péché, que nous ne sommes plus sous la condamnation de Dieu. C'est ça la grâce en fin de compte, c'est le fait de vivre en toute liberté. Et ce qu'elle nous enseigne, la grâce, c'est d'avoir un comportement qui va en adéquation avec ce que nous prêchons, avec ce que nous disons aux autres. Alors, verset 12, « Reniant l'impiété et les convoitises mondaines. » Si on prend, je les ai notés heureusement, si on n'allait pas, je vais vous le lire, si on prend Romains 6, versets 1 et 2, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de moi, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» En fin de compte, on est appelé à ne plus demeurer dans le péché. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des gens qui disent et qui annoncent qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont encore bien dans leur péché. Et ils se disent, c'est pas grave, il y a la grâce. Il y a la grâce de Dieu qui est là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc j'ai encore le temps. Est-ce que vous croyez que c'est un comportement normal ? C'est ce que ce verset est en train de dire. Ce que nous devons faire, c'est nous éloigner du péché. On déclare aux autres qu'on est mort au péché, on doit s'éloigner. C'est-à-dire que on ne doit pas se satisfaire des choses, des petites choses que l'on fait, mais c'est vraiment repousser toute chose. Je ne dis pas qu'on ne retombe pas. Ça arrive, malheureusement. Mais ça nous permet de revenir à Christ. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a une différence entre la personne qui refuse, qui combat vraiment, hein. Il y a des gens qui combattent, et la personne qui est bien dans son péché, qui ça ne le dérange absolument pas, qui dit aux autres « je suis chrétien », et qui dit « de toute façon, je vis sous la grâce. Quoi qu'il arrive, je suis sous la grâce. » C'est exactement ce que ce verset est en train de nous dire. Je peux pécher, il y a la grâce. On parlait de l'impiété. Définition de l'impiété nous est donnée par Jude, en Jude 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est ce que je viens de vous expliquer, la grâce de Dieu est changée en dissolution, en débauche, en dérèglement de vie. Le Seigneur est complètement renié. Il est méprisé. D'ailleurs, l'impiété est souvent traduite par profanation ou outrage. On outrage Christ lorsqu'on vit comme cela. En ayant conscience de vivre comme cela. Et Paul était, quand il a enseigné ça, il savait que dans cette église, il ne fallait pas justement, parce que c'était vraiment le début de l'église. Il avait jeté cette doctrine toute simple, mais qui est tellement puissante, et qu'il suffisait simplement de suivre. Il savait qu'à partir du moment où les gens s'éloigneraient de cette doctrine simple, il ferait rentrer le loup dans la bergerie. Il le savait très bien. Les convoitises mondaines, reniant l'impiété, les convoitises mondaines ou les passions, c'est en fin de compte le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui. Tout ce qui est du monde, tout ce qui est, malheureusement, on assiste, on est en plein dedans, la récession, on assiste à tous les méfaits qui ont été, je dirais, empilés année après année, où les gens pensaient à l'argent, où les gens... On n'a même plus cette entraide qu'on connaissait avant. Les gens sont devenus individualistes. Les gens sont devenus passionnés de Facebook, de plein de choses comme ça. Et puis vous avez le petit voisin à côté qui est mort depuis 3 jours. Et on ne le voit pas. On peut remettre ça au sein de notre église. Il y a des gens qui viennent dans l'église tous les dimanches et qui ne voient absolument même plus leur frère ou leur sœur qui est dans la détresse. On ne parle plus avec eux, parce qu'on sait qu'il y a trop de problèmes, je ne peux rien faire, je ne peux même pas prier pour eux. Parce qu'on vit des passions. On ne veut plus être un âne, on veut être un cheval de course, et on oublie la simplicité de la parole de Dieu. Donc je disais qu'en fin de compte, en Jude 16, on trouve un verset qui dit « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. » C'est leur moi, en fin de compte. C'est leur moi qui agit en eux. Et Paul, en fin de compte, a donné deux choses difficiles, mais ensuite il arrive à des choses plus simple, des choses où ça fait du bien d'entendre ça. Nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. Là, il jette notre façon de vivre qu'on doit avoir aujourd'hui. Je vais vous le lire. Alors, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, 3 choses qui ont l'air très difficiles, mais qui sont très simples. Nous vivons dans ce monde et nous devons être moralement retirés de ce monde. C'est-à-dire ne plus être touchés par les choses de ce monde. Et je fais souvent cette réflexion, notamment à mes collègues et autres. Quand je parle des années 70, et c'est Kit qui m'avait fait cette démonstration. On parlait du péché, on parlait des choses. Il me disait, en 1970, quand on voyait des choses un petit peu dénudées, mais vraiment un petit peu dénudées, à la télévision, qu'est-ce qu'il y avait en bas, à droite? Vous voyez, un Anglais qui vous dit ça. Ben, il y avait un petit carré blanc. Et maintenant, vous avez un petit moins de 10 ans, et on voit des horreurs. Je ne vais pas parler de choses qui sont plus terribles et qui malheureusement commencent où les peines sont de moins en moins fortes. Mais c'est simplement pour vous dire que le péché se dissout tout doucement dans ce monde. Et je crois qu'actuellement, on est en train d'accélérer les choses. Parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, qui ont été votées, il y a d'autres choses qui arrivent. Et non pas ces choses-là, c'est terrible, parce que moi j'associe toujours la fin des temps avec ce qui arrive maintenant, mais c'est simplement pour vous dire que maintenant, le péché est dissous. On arrive au temps où le bien est mal et le mal est bien. Et nous, on a à être retirés moralement de ces choses-là. C'est-à-dire que on va les vivre, on va les vivre. On est dedans, on est au milieu, mais on ne doit plus être attaché ou atteint par ces choses-là. Parce que ce qui arrive au monde actuellement, c'est la conséquence de la liberté de penser, de la liberté d'agir, de vivre sans Dieu. De vivre sans Dieu. Alors que nous qui vivons avec la pensée de Dieu, avec son esprit, nous devons moralement réfuter ces choses-là. En Galates 1, 4, 3, 4, il est dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Si on se déclare à Jésus-Christ, ça veut dire qu'on est arraché au monde. On ne doit plus embrasser les pensées du monde. On ne doit plus être... Vous allez voir, le distinguo que Paul fait, c'est on vit dans le monde, mais pas pour le monde. En fin de compte, on doit être un peu cette bouée. Vous êtes en plein océan, vous êtes tombé de votre bateau, et il y a une bouée qui clignote dans la nuit, c'est cette bouée sur laquelle le monde va se rattacher. Chacun d'entre nous, on doit être cette bouée pour ce monde. Et c'est ce que Paul enseigne, de telle manière qu'on enseigne des vérités, les vérités simples de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ dans le cœur d'un homme qui libère. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Donc, il continue sobrement. Donc, la sagesse, sobrement quant à nous, en mettant un frein à nos propres désirs et à notre volonté, en menant une vie pleine d'équilibre et une maîtrise de soi qui est un des fruits de l'esprit. Alors comment faire? Il faut annihiler le moi qui est en nous. Et il ne faut pas non plus penser être le sauveur du monde. Nous, on a une chose à faire, c'est ce que je viens de vous dire, on doit être la bouée. On doit avoir un témoignage. Imaginez, vous êtes un chrétien muet. Muet, complètement muet. Vous n'êtes pas incapable aujourd'hui de donner un verset de la parole de Dieu, de parler, de discuter sur l'œuvre de Jésus-Christ dans votre vie, comment vous allez faire? Expliquez-moi. Comment vous allez faire si vous êtes incapable d'annoncer la parole de Dieu? Simplement avec votre comportement. Est-ce que vous croyez que ça fait des années que Dieu a besoin de Pascal pour sa parole? C'est-à-dire que si je ne fais pas d'évangélisation, si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela, je ne suis pas sauvé. Si je pense ça, ça veut dire que je suis en train de me dire que c'est les œuvres que je fais pour Dieu qui me sauvent. C'est ça le raisonnement. Ce que je dois faire, c'est faire vivre Christ en moi. Et c'est ce que Paul dit simplement au travers de ces versets. Faire vivre Christ en moi. Et le reste, ce n'est pas mon problème. Le Seigneur va dire, ben maintenant tu es devenu un âne, je vais t'utiliser. Parce qu'avant, tu étais un cheval de course. Tu refusais le mort, tu refusais la selle. Parce que tu avais ton caractère. Il faut être dompté par Dieu. Justement, c'est-à-dire vivre en justice, quant aux autres en reconnaissant les droits des autres. Vous voyez, tout se rapporte au moi. À partir du moment où on a intégré le fait que les autres sont plus importants que moi, sont mieux que moi, ça va beaucoup mieux. La plupart des divisions dans les églises, la plupart des problèmes dans les églises sont liés aux personnalités des uns et des autres. Les gens ont oublié l'amour de Dieu. Les gens ont oublié qu'un jour, on était comme la personne qu'on a en face de nous. Et on juge, et on critique, et ceci, et cela. Comment on va faire le jour où on sera devant la pureté de Dieu? Lorsque Dieu va nous dire, tu es inexcusable. Alors, il y a des gens qui me disent, je l'ai déjà dit, qui me disent, oui, mais tu vas voir quand je serai devant lui. J'ai l'impression qu'on ne pourra même pas se tenir droit. Ça sera impossible. Impossible. Il suffit simplement de faire vivre la foi qui est en nous. Vous voyez, ce n'est pas des choses difficiles. Et je pense que Paul devait sentir, quand il a enseigné ça et a exhorté Tite à développer ces choses aux Crétois, c'est qu'il savait que c'était le fondement même d'une église, mais le fondement même de tout chrétien. Alors, le troisième point, c'est pieusement, vivre pieusement quant à Dieu. Et c'est-à-dire qu'il faut lui plaire à tout égard. C'est ce que Colossiens 10 nous dit. Il faut être consacré à Christ. Ce n'est pas Christ qui doit être consacré à nous. De telle manière que moi, et comme Christ est consacré à moi, ben je fais les œuvres. Sinon, on revient aux choses de dire qu'en fait, compte, c'est l'œuvre que je fais qui m'a sauvé. Non. C'est Christ m'a sauvé. Je vis pour lui. Le plus bel exemple qu'on a, c'est Daniel et Brigitte, où Christ leur dit, ben aujourd'hui, là, tu es pendant un temps à Hasbrouck, et puis là, tu seras pour un certain temps basé à Strasbourg. Et puis peut-être que dans 2 ans, tu seras ailleurs. Est-ce qu'on est prêt, nous, chacun, à faire ça? Ce sont des sacrifices, il y a des sacrifices derrière. C'est pas simplement, oui, le Seigneur m'a appelé à faire ça. C'est bien beau de le dire, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on a calculé les sacrifices qu'il y a derrière? C'est ça, vivre une vie consacrée. C'est ça, c'est être prêt à entendre Dieu qui nous parle et à obéir. On entend souvent Dieu au travers des prédications, des témoignages. Dieu parlait, on l'écoute. Dès le culte terminé, on commence à parler des choses à droite et à gauche. On ne prend jamais le temps de dire « Oui Seigneur, tu m'as parlé ». Voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui ne va pas. Vous savez, quand on veut redresser une barre de fer, on la chauffe. On n'attend pas qu'elle refroidisse pour taper dessus. Pendant que c'est chaud, on tape dessus, ce qui fait qu'on la redresse. Quand on sait que le Seigneur nous a parlé au travers d'un témoignage, au travers d'une prédication, au travers de n'importe quoi, on se met à part, on dit au Seigneur, continue à me parler, explique-moi ce que tu as à me dire. Explique-moi. Dans ta parole, explique-moi. Et le Seigneur va le faire. À nous d'obéir ensuite. Donc nous sommes dans ce chapitre exhortés à montrer de la sobriété. Et c'est cette sobriété qui va nous aider à veiller, qui est très important. En Matthieu 24, c'est un chapitre qui vous parle de l'eschatologie, c'est-à-dire de la fin des temps. Jésus dit en plein milieu, veillez et priez. Si vous êtes à travers toutes les choses du monde, occupé à courir à droite parce qu'on a monté un truc, à courir à gauche parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et vous n'êtes pas occupé à veiller et à prier. Si vous lisez et vous étudiez tout ce qui est, je vais le redire, mais j'aime bien le dire parce que c'est C'est tellement vrai, et José me l'a dit souvent. Quand on parle de l'Antichrist, dans la parole de Dieu, c'est une personne terrible. Et pourtant, à plusieurs reprises, par trois fois, vous allez lire, il lui fut donné. Il lui fut donné. C'est-à-dire que Dieu va permettre à ce monstre de s'asseoir sur son trône, de blasphémer, de donner des paroles enchanteresses, et que tous les gens, certaines personnes vont le suivre. Comment nous, si on n'est pas occupé à veiller, à prier, on sera déconnecté de cette personne. Et c'est ce que Paul enseigne ici, tout simplement. Il enseigne ces choses, d'être détaché des choses du monde, d'être dans la présence de Dieu en permanence. En 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer dans la prière. Sages et sobres. Et comme nous montre le verset suivant, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. L'espérance, il semblerait que ce soit marqué 53 fois, comme ici dans la parole de Dieu. Et c'est lié avec la seconde venue de Jésus-Christ. On le voit en 1 chapitre 2, chapitre 1 verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc l'espérance de la vie éternelle, c'est l'espérance du retour de Christ. En 3, chapitre 3, verset 7, « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce qui doit nous faire vivre. Et ce qui doit nous rendre joyeux, cette espérance de savoir que Christ va revenir, et qu'on sera avec lui dans la vie éternelle. C'est la seule chose qui doit être importante dans notre vie. C'est comme quelqu'un qui est en bas d'un escalier, qui voit une très grande porte, et qui sait que derrière, il vient de faire 50 km à pied, par 40 degrés, et il sait que derrière la porte, il y a à boire. Et s'il ne monte pas l'escalier, il n'aura jamais à boire. Nous, notre rôle, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est gravir les marches. Gravir. C'est, en fin de compte, on est appelé à être sanctifié. Et on se sanctifie en faisant vivre la foi qui est en nous, en se laissant enseigner par la grâce de Dieu. Et nous, on est donc des personnes qui avons une espérance. En 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Ceux qui sont morts en Christ revivront. C'est ça l'espérance. Et revivront éternellement. Est-ce qu'on attend aujourd'hui chacun le retour de Christ? On va extrapoler. On entend subitement que dans 2 minutes, Jésus-Christ revient. Je sais, il y a beaucoup de souris en disant que dans la parole, il est dit que nul ne connaît le temps ni le lieu. Mais c'est une façon de réfléchir qu'on peut adopter pour notre quotidien. Et si Christ revient, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que notre vie, à l'instant où Christ revient, est-ce qu'elle s'inscrit dans la vérité de ce que je dis aux autres? Ou est-ce que c'est une apparence? C'est une chose de connaître la doctrine du retour de Christ. C'est une chose de dire « oui, je suis dans l'espérance de la vie éternelle ». Mais c'est une autre chose que de vivre dans cette attente. Et ça veut dire que si je vis dans cette attente, je me tiens prêt au quotidien. C'est ce que Paul enseigne simplement aux Crétois. Il faut être prêt au quotidien à rencontrer Jésus-Christ. C'est une forme, c'est une motivation et une stimulation pour qui est puissante pour notre vie chrétienne. Elle donne de la joie, elle donne du bonheur. Et on sait surtout que Jésus-Christ ne va pas revenir comme beaucoup l'ont vu crucifié, l'ont vu maltraité en disant « Ouais, mais t'as vu ton Jésus, il est mort sur la croix. » Lorsqu'il reviendra, tout œil le verra. Et il va revenir avec une puissance et une gloire que personne n'a vue jusqu'à présent. Et personne ne pourra nier la vérité de Jésus-Christ. Alors, verset 14, il est dit qu'il s'est donné lui-même pour nous. Alors, en 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ce matin, si vous avez bien écouté, ça a tourné autour de cette parole, que Christ s'est donné lui-même en rançon pour nous. Est-ce qu'on a déjà réfléchi au fait que on a fait une bêtise et que quelqu'un dit « Mais laisse, je prends ta place. Je vais en prison à ta place. Ou je paye l'amende à ta place. Ou ceci, ou ceci. » Est-ce qu'on imagine le bien, la délivrance que ça fait? Est-ce qu'on a... Et ça, c'est difficile d'évaluer la conscience du péché dans nos vies. Et le fait que l'œuvre de Christ enlève, arrache ce péché, arrache l'aiguillon du péché. Alors on a un contraste entre la grandeur, le grand médiateur entre Dieu et les hommes, et celui qui se donne. Vous imaginez, d'un côté on donne un grand titre à Jésus-Christ, le seul médiateur, et de l'autre côté on dit « il s'est donné ». Il s'est donné pour nous. Il a purifié lui-même un peuple acquis pour les bonnes œuvres. Il a purifié un peuple. Ce matin, je vous annonce, vous êtes purs en Jésus-Christ. Vous êtes purs. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres de faire du bien, de ceci, cela. Non, c'est le témoignage qu'on donne. Et on verra ça au point suivant. On a les trois derniers points de la manifestation de l'enseignement de la grâce qui sont introduits par un tout petit mot, « afin ». Et ce sont les trois buts du sacrifice. « Afin qu'il nous racheta de toute iniquité, afin de nous délivrer de toute injustice », dans certaines traductions c'est dit. En Galates 4.3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, et que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Aussi, j'aime bien ce verset parce que ça change d'un seul coup. Aussi, tu n'es plus esclave, mais fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es plus esclave. Il n'y a plus de condamnation. On n'est plus esclave du péché. On n'a plus à vivre dans le péché. On doit s'écarter du péché. Celui qui le fait volontairement, renie Jésus-Christ. Christ a tout fait, son œuvre est parfaite. Le point suivant, qu'il purifia pour lui-même un peuple. Nous sommes pour Christ dans ce monde. Il faut se garder de faire le mal. Il faut se garder de faire le mal. C'est un témoignage qu'on doit donner, être quelqu'un de droit. Qu'est-ce que ça ferait un jour si... vous avez donné des versets magnifiques avec des explications magnifiques et le lendemain, on vous voit insulter quelqu'un, on vous voit frapper quelqu'un, on vous voit faire tout ce que vous vouliez. Quel témoignage on va donner? façon, lui, on ne peut rien lui dire. Il va te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien, ce n'est pas droit, ce n'est pas correct. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est mieux, ces choses que le monde pense de vous? Lui, ce n'est même pas la peine de lui demander. Il va te dire que ce n'est pas bien. Moi, j'aime mieux entendre ça, ce message-là, plutôt que de dire, bah oui, on va le prendre avec nous. Tu vas voir, il est intelligent, il sait faire de belles choses, puis il sait bien parler. C'est ça que l'œuvre de Christ doit faire dans nos vies. Lui, on ne le prend pas, ça ne sert à rien, lui, c'est même pas la peine. Il va refuser tout de suite. Donc, il nous a purifiés pour qu'on s'éloigne du mal. Il s'est donné pour nous afin qu'on réalise dans notre cœur ces deux aspects. La purification et surtout les bonnes œuvres, le fait de s'éloigner du mal. Le dernier point, c'est acquis, zélé pour les bonnes ou belles œuvres. Certaines traductions disent les belles œuvres. Soyons pour lui un peuple acquis. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Vous imaginez? C'est des versets magnifiques que j'ai choisis. Et c'est dans la parole de Dieu. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous êtes tout cela aujourd'hui. Vous êtes rien d'autre. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est-à-dire qu'on appartient entièrement à Christ. Il s'est donné pour nous, et par reconnaissance, on doit lui donner la place qui lui est due dans nos vies. Si on regarde la place que le Père a donnée à son Fils, il est où, Jésus-Christ? Il est à sa droite. Est-ce qu'aujourd'hui, Christ a cette même place dans nos vies. On doit être stimulé pour les bonnes œuvres. Et quand je dis bonnes œuvres, ce n'est pas le fait de faire, parce qu'en fin de compte, les œuvres doivent découler de ce qu'on est au quotidien. En Hébreux 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, c'est-à-dire à l'amour, et aux bonnes œuvres. Il faut être zélé et plein d'ardeur pour les œuvres, pour les bonnes œuvres qui sont préparées à l'avance pour nous. » C'est-à-dire que les choses qu'on fait, je viens de vous le redire, ça doit découler de ce qu'on est au quotidien. Donc en conclusion, donc vous voyez que ce message était très simple. C'est vraiment une exhortation que donnait Paul à Tite. C'était une base de vivre sobrement, de vivre dans la justice. Et ce qu'on nous demande, enfin ce qui est demandé simplement, c'est de ne pas juger. De ne pas chercher non plus à changer le caractère de ceux qui nous entourent. Parce que pour nous, c'est impossible de faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il faut simplement être des témoins fidèles de l'espérance qui est en nous. Faire vivre notre foi, tout simplement. Et ne pas rechercher à combattre les choses du monde. Parce qu'en combattant les choses du monde, ce qui arrive, c'est qu'on va se fatiguer. Et on va arriver à dire, comme j'ai des fois entendu, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet ça? Le Seigneur nous demande simplement, tout simplement, lorsqu'on a répondu en disant « Oui, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur », c'est d'apporter aux autres, par un témoignage, n'oubliez jamais le muet, qui ne peut pas donner sa parole de Dieu, qui ne peut pas dire « c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ceci, c'est pas bien cela », mais qui est subjugué, les gens qui nous entourent, qui sont subjugués par notre façon de vivre. Christ était le Fils de Dieu. Il n'est pas venu avec une armée très puissante. Il n'est pas venu où il aurait pu tuer tous ceux qui étaient devant lui, les pharisiens et compagnie. Il est venu par l'intermédiaire d'une femme qui était dans le monde. Il a vécu comme les hommes du monde, mais à part du monde. Et on arrive à faire ces choses-là lorsque on fait vivre sa foi, lorsqu'on se sanctifie, lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on reste dans la vérité de la parole. C'est simplement ce que Paul demandait que Tite enseigne aux Crétois. Faisons la même chose et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont disparaître de nos vies. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, ta parole est simple. Ta parole n'est pas compliquée. Mais c'est nous qui la compliquons en voulant être, en voulant paraître, en voulant faire les choses à ta place. Et Seigneur, tu veux simplement que nous soyons des témoins, comme cette lampe qui doit être placée sur la table et non sous la table. Tu veux que nous soyons cette bouée au milieu de l'océan sur lequel le monde peut se raccrocher. Seigneur, que tu puisses nous éclairer au quotidien dans ce que nous avons à faire, que tu puisses changer les fondements de nos vies. Seigneur, que nous soyons capables de laisser vivre l'Esprit qui est en nous et que notre moi ne couvre pas les choses que tu nous donnes. Seigneur, que, comme Paul l'a fait pour Tite, Seigneur, que nous puissions exhorter nos voisins, nos amis, notre famille, simplement par notre comportement, à gagner la cause de Christ, à emprunter le chemin, la vérité et la vie. Par le nom de Jésus. Amen.